Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 20e épisode de Torréfaction, notre podcast d'actu hebdomadaire avec Caf, hein, c'est le Caf. Hein.
Parce qu'il en reste, hein. Salut, ça va Pascal ?
Pas trop dur le retour de vacances là ?
Bah écoute, la semaine dernière j'étais dans le désert en train de faire du buggy dans le désert marocain, c'était mieux. On va pas se mentir, je suis content d'être avec vous, la fibre m'a manqué, mais c'était pas mal quand même. Par contre, la poussière, bonjour, mais c'était rigolo.
Voilà, donc on n'a pas eu d'émission la semaine dernière, on se rattrape cette semaine avec une émission normale, on va pas refaire une émission d'une heure, faut pas déconner non plus.
Non mais c'est... du calme les gars quoi.
Et on va commencer avec notre section gaming, on va parler d'Oken, un jeu de robot de mec, c'est ça, qui
ouais.
ferme ses serveurs malheureusement.
Je sais pas combien de news j'ai fait sur ce truc, à chaque fois j'essayais d'être super à donf en me disant ouais c'est trop bien et franchement et le jeu il est trop beau.
C'était très joli.
Mais ouais, et personne y joue parce c'est que ça. Bah il est trop beau mais il est un peu chiant quand même, donc du coup le gameplay était intéressant, il y avait des trucs à faire, mais il manquait ce petit quelque chose qui fait que tu reviens vraiment au jeu et ça fait vraiment partie de cette catégorie de jeux où t'oubliais d'avoir envie d'y jouer. C'est-à-dire que dans ta liste Steam, c'était vraiment le truc, tu cliquais dessus par curiosité en disant hey, c'était comment ce jeu déjà ?
C'est ça. Tu fais une game et puis tu te fais défoncer.
Et après, même si tu gagnes, t'es en mode genre, bon bah je vais aller jouer à Counter-Strike. Enfin,
Titanfall 2.
À n'importe quoi, ouais, même bien avant que ça soit sorti, tu vois. Mais c'est un... Non, pour moi, c'est un peu une déception dans la mesure où donc les serveurs ont fermé le 2 janvier 2018 et les mecs sont en train de dire que, dans un blabla marketing classique, qu'ils vont recentrer leurs activités sur les trucs qui rapportent de l'argent, en vrai.
Bah oui.
Parce que ça va bien. En plus, donc, le jeu est passé de main en main pour essayer de survivre, tant bien que mal, on va dire. Il est passé dans les mains de Relay Dead Games, les gars qui avaient forqué APB Reloaded, qui était aussi un MMO qui a eu une vie un peu courte, difficile.
C'est ça. Il n'y a que Pipo qui y jouait, je crois.
Le seul. Moi, au départ, je me suis dit, ah, il y a des bonnes idées et tout. Et puis, en fait, non. Hein. Genre, faire un jeu avec des bagnoles où la conduite était toute pourrie, c'était pas une bonne idée.
Non.
Entre autres. Mais bon, bref, il y avait des idées, mais pareil, rien de réalisé correctement. Dans Oken, le truc qui est le plus frustrant, c'est que leur moteur, le rendu graphique du jeu était fantastique. Mmh. Mais que, bah, du coup, ça n'a jamais vraiment suffi, puisque le gameplay était, même s'il y avait des trucs intéressants, il manquait vraiment un truc pour faire que les combats soient plus dynamiques, plus violents, plus intenses, et que tu sois pas obligé de courir après un mec parfois pendant 50 ans dans les maps. T'avais une verticalité dans les maps qui était intéressante, mais qui, du coup, desservait si t'avais pas le bon robot, enfin il fallait pouvoir jumper. Il y a plein de petits trucs qui fait que c'était des bonnes idées, mais ça fonctionnait pas.
Moi je trouvais que ça manquait de rythme aussi. En fait, t'avais un peu l'impression que les parties étaient très flattes et que bah voilà, tu tirais, tu te battais, puis c'était fini. Et
c'est
en fait, il y avait pas de crescendo, il y avait pas de.
Tu pouvais faire. En fait, si tu jouais en équipe, tu pouvais vraiment rouler sur les mecs, mais du coup c'était pas drôle non plus puisque bah du coup tu faisais ta squad et puis les mecs en face ils pleuraient du sang. Donc on est loin des trucs alors qu'on aime ou pas Overwatch par exemple, c'est un jeu d'équipe qui a réussi vraiment à mettre ça en place. T'as vraiment des engagements où tu sais que bon bah là on y va les gars, on a les ultis, boum. Et il manquait des petits éléments de gameplay qui auraient fait que le jeu aurait pu cartonner. Les mecs qui ont repris ça, la dernière équipe qui s'appelle Oken Entertainment et qui donc a repris ça en 2016, et là bon bah ils se jettent l'éponge et ils savent très bien que maintenant on va essayer de relancer un truc. Au mois de mai ça n'a pas marché et donc là il est temps de mettre la clé sous la porte et d'arrêter les dégâts.
Voilà, il vous reste jusqu'au 2 janvier 2018 donc pour jouer à Oken, et puis après bah c'est fini. On va parler de la PS4 et d'un nouveau firmware.
Ouais, vite fait, juste pour dire que les mecs, faut arrêter avec les trucs 5.0 quand ça mérite pas de s'appeler 5.0. Non, normalement on appelle ça les point release, c'est quand tu sors plein de nouveaux trucs, tu vois iOS 12.0, il y a plein de trucs. Enfin d'ailleurs, on va pas s'enflammer, on est que au 11.0. Mais tu vois l'histoire. Généralement, en plus, tu vois, ça vient avec plein de petits bugs et tout, tout nouveau, tout frais. Mm-hmm. Parce que, bah, c'est tout nouveau, t'as tout changé. Là, c'est pas du tout le cas avec ce firmware-là. C'est vraiment une évolution. Ils ont rajouté des petites choses, surtout côté réseaux sociaux, puisqu'il paraît que c'est à la mode, tu sais. 2017, Sony qui découvre des trucs. Donc, tu peux faire des listes d'amis un peu plus mieux foutues. Tu peux vraiment sélectionner des mecs et les mettre dans des catégories. Enfin, bon, t'as plein de petits trucs. Seule chose moi qui m'intéresse et que je retiens de ça, c'est que tu peux streamer vers Twitch en 1080p à 60 images secondes sur la PS4 Pro. histoire de dire que tu as une PS4 Pro et que tu es super fort à un jeu en particulier, ce qui ne sera jamais mon cas. Donc, non, franchement, en termes de nouveautés, il y a rien qui donne le droit à ce firmware de s'appeler 5.0. Maintenant, j'aimerais bien une interface encore un peu plus fluide et un peu plus rapide. Actuellement, c'est encore un petit peu mou du genou. Je sais pas, c'est pas la PS3, les gars. On se calme. Mais je trouve que c'est pour une bécane, quand on sait ce qu'elle a dans le bide.
Ouais.
Quand tu vas sur le store, etc. C'est pas que c'est lent, mais t'as rien d'instantané. Et quand tu vois ce que font nos téléphones aujourd'hui, oui, tu te dis, Sony, ça serait peut-être pas mal que tu optimises ton truc pour la 6.0. Et c'est là où ils vont nous sortir une 5.1 qui déboîte. Tu
vois. Donc, avec plein de nouveaux trucs.
En fait, les mecs, ils en ont rien à foutre des numéros de version. Ils font comme ça, leur chante. Donc voilà, donc c'était juste pour noter que c'était sorti. Et je préfère le dire tout bêtement parce que, bah, comme souvent sur PlayStation, des fois, tu l'allumes pas pendant 3 semaines parce que tu joues à autre chose. Et puis, bah, quand tu la bootes, bah, tu joues pas non plus parce que t'en as pour 50 ans d'update. Donc, si vous avez prévu d'y jouer ce week-end, lancez l'update en rentrant ce soir.
Et on va rester sur les trucs qui méritent pas leur nom avec le C64 Mini. On en a parlé cette semaine sur Geekzone. C'est une, bah voilà, ça tente de surfer sur la vague de nostalgie du côté des geeks. Hein. Il y a eu les petites NES, les Super NES Mini, c'est ça?
C'est les SNES Mini et NES Mini, ouais.
Voilà. Et bah du coup, ils ont décidé d'embrayer le pas avec une machine qui s'appelle donc le C64 Mini, qui est conçu par Retro Games. Alors je me suis rencardé un peu et après des recherches, les infos que j'ai, c'est que a priori ce serait des anciens du milieu du jeu vidéo dans ces années-là, dans les années 80-90, mais ça reste très vague, donc si ça se trouve c'est encore les mecs du marketing, comme je sais plus avec quelle société là,
ouais,
et puis surtout il semble avoir été créé vraiment juste pour ça, donc ça sent un peu l'opportunisme à plein nez. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est un émulateur en fait dans un petit boîtier, donc c'est une reproduction du Commodore 64 originel en version mini avec un émulateur dedans tout simplement, et 64 jeux. Alors 64 jeux dont la majorité, on va pas se mentir, sont quand même relativement pourris. Il y a quelques exceptions comme California Games qui était plutôt sympa sur ses 64, ou encore les deux Missions Impossibles, Pit Stop qui a quand même un peu vieilli, et puis sinon pour le reste c'est des titres dont je connais pas la moitié, et puis les autres quand j'étais voir un peu ce que c'était, on a des puzzle games tout pourris comme Anarchy, enfin voilà. Et donc pas de possibilité de rajouter ses propres jeux évidemment, parce qu'il faut pas rêver. Donc si vous avez récupéré des vieux jeux C64, vous pourrez pas les faire tourner sur cet émulateur. Donc voilà, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Moi je pense que c'est
le problème déjà, c'est qu'il y a aucune légitimité sur ces mecs.
C'est-à-dire c'est
que
vrai,
quel que soit leur pedigree, ils ont zéro légitimité à sortir un truc qui s'appelle C64 MIDI Commodore 64. Commodore c'est mort, c'est passé de 50 mains, mais ça ressemble plus à rien, c'est comme l'Amiga, c'est plus qui est le patron derrière, ça, c'est fini. À un moment, faut arrêter, faut mettre le dernier coup de pelle sur la tombe et puis se dire bon bah voilà, là il est enterré le truc, tu vois. Et c'est pour ça, c'est une grosse différence avec Nintendo, parce que Nintendo, les SNES Mini, c'est la marque originelle qui est là depuis plus de 100 ans, qui défend ses licences, c'est des jeux qu'ils ont sortis eux sur des machines qu'ils ont sortis eux. La légitimité, elle est totale. Après, on aime pas le produit, ils font ça bien. Bon bah le seul truc qui moi m'a fait râler dans ce podcast, c'est de dire bon bah les gars, ça serait bien de pas en fabriquer 100, parce qu'en attendant ils sont à 150 balles au lieu de 80 sur Amazon, vendus par des mecs qui les stockent par paquet de 10, et ça c'est une énorme connerie. Donc
aussi,
là le problème pour eux, il est pas technique, il est mercantile. Là, c'est vraiment faire de la thune sur un truc où les mecs, en fait, on sont aperçus que les droits, ça devait être une zone grise. Je sais même pas où ils ont chopé le nom, tu vois. Ça se trouve, ils l'ont pas chopé, en fait. Ils espèrent juste de pas se faire attaquer, puisque plus personne n'a peut-être vraiment le nom. Enfin, tu vois, ça. J'ai pas regardé, j'ai pas creusé, mais tu vois.
En fait, ils se font appeler, alors attends, officiellement, c'est The C64 Mini, et il y a effectivement aucune mention de Commodore nulle part, donc je pense
c'est
zone grise, quoi.
Ça devait être le Commodore 64, la marque, et C64 a jamais dû être déposé, ou une connerie dans le genre, tu vois. Donc, bref, tout ça pour dire que, clairement, achetez-vous une Raspberry Pi, installez un émulateur dessus, prenez-vous un petit boîtier mignon, et puis, bah, déjà, vous apprendrez plus de choses. Et en plus, vous aurez accès à l'intégralité de la ludothèque du C64 et de plein d'autres trucs. Donc, c'est carrément plus intéressant. Et puis, ça coûte même moins cher. Donc, soyez pas stupides et craquez pas pour ce genre de conneries, parce qu'ils ont fait un boîtier en plastique qui ressemble à un C64, quoi.
Et puis on en parlait, les alternatives, il y en a deux à signaler, hein. Il y a l'historique CCS 64 qui est premier jour depuis 2015 mais qui fonctionne toujours plutôt bien, et puis mon petit préféré qui est Vice 64, qui est un émulateur qui lui offre l'avantage de tourner sur plein d'OS dont Windows OS 2 même. Il y a une version pour Mac OS X et une version pour Amiga aussi, et qui permet en plus d'émuler un paquet d'autres machines que le C64, dont le C68, le VIC-20 et puis tous les modèles de PET, le Plus 4, le CBM2, etc. Enfin bref, toutes ces machines
légendaires, quoi.
Voilà, un vrai émulateur. Après, bon, pour ce qui est des jeux, il y a plusieurs solutions qui existent, hein. Il y a moyen d'acheter des petites interfaces qui permettent de brancher des lecteurs de disquettes C64 sur un PC et de transférer les fichiers. Et puis sinon, bon, il y a quand même un peu prescription après toutes ces années. Il y a plus personne qui fera jamais de la thune sur certains titres. Il existe des archives de disquettes, d'images disquettes qu'on peut intégrer dans ces émulateurs assez facilement. Et vous allez voir que, bah, c'est comme toujours, vous allez y jouer pendant 2 heures, vous allez parcourir tous les titres que vous avez fait quand vous étiez gamin, et puis vous allez le ranger, et puis vous allez plus jamais le lancer après. Donc plutôt que d'investir 80 balles dans un émulateur très limité, allez plutôt lancer un vrai émulateur avec plein de jeux, faites-vous une soirée pour rigoler, et puis après rangez-le comme tout le monde fait, moi le premier. Et on va rester sur l'actu jeu, mais on va partir du côté du jeu gratuit, du jeu PC, avec Microsoft Allegiance. Allegiance, je sais pas comment on prononce.
Allegiance, comme chez nous.
Allegiance, c'est vrai, on va dire ça. Un jeu qui est assez vieux, qui date de 2000, qui avait été publié à l'époque par Microsoft et qui a un croisement entre stratégie temps réel et combats spatiaux à la première personne. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler et c'est normal. GameSpot lui avait décerné le prix du meilleur jeu auquel personne ne joue à sa sortie. C'est resté plus ou moins valable. Est-ce qu'il faut savoir que quand le projet a été abandonné en 2004 par Microsoft parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs sur les serveurs, c'est un jeu exclusivement multi, hein, donc il n'y a pas moyen de jouer seul. Ça avait été récupéré par la communauté, en fait, une très petite communauté mais très active, qui avait réussi à dealer avec Microsoft une licence partagée, donc pour continuer à faire vivre le jeu, qui s'est donc renommé Free Allegiance à l'époque, qui a continué d'être mis à jour pendant quasiment 15 ans jusqu'à aujourd'hui. Il a encore été mis à jour il y a pas longtemps, mais il y a toujours pas grand monde qui y joue. Donc devant ce constat, la communauté s'est un peu vénère et s'est dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si on peut pas le foutre sur Steam. Comme ça, tout le monde va pouvoir y avoir accès, va pouvoir y jouer, puis on va récupérer plein de joueurs. Donc je sais pas si ça a fonctionné, en tout cas c'est l'envie qui était manifestée par la communauté, et donc vous pouvez désormais récupérer ce titre et y jouer gratuitement sur Steam. Alors attention, c'est un jeu qui va s'adresser principalement aux gros nerds de l'espace, parce que la courbe d'apprentissage est assez ardue, et puis on va pas se mentir, graphiquement c'est quand même un petit peu dépassé.
C'est peut-être aussi pour ça que plus personne y joue.
Aussi. Mais apparemment, alors d'après tout ce que j'ai lu sur le titre, moi j'ai pas joué parce que c'est vraiment trop complexe pour moi, mais d'après tout ce que j'ai lu sur le titre, c'est quand même un titre qui est plutôt prisé, en fait, et que les amateurs de Space Opera et qu'on sort un bien mettre dans leur top de jeux préférés de l'espace. Donc voilà, si vous n'avez jamais eu l'occasion de jouer à ce titre, vous pouvez le faire maintenant gratos. Et puis qui sait, peut-être que vous allez accrocher. On verra bien. Moi, en tout cas, c'était pas le cas. Mais voilà, je voulais en parler quand même malgré tout. On va passer du côté des apps avec une nouvelle version de Firefox qui fait beaucoup de bruit.
Une nouvelle version, oui et non. C'est juste que maintenant, on a un accès plus facile aux nouvelles versions développeurs de Firefox et qu'on rentre dans la phase Firefox Quantum. J'adore ce nom. Du coup, c'est hyper intéressant puisque nous voyons enfin les prémices du nouveau moteur de rendu et de la nouvelle techno mis en place par Firefox. Je dois bien dire que ça défonce.
D'accord.
Ça va super vite à tous les niveaux, c'est-à-dire que le navigateur est enfin rapide à se lancer, super rapide à faire le rendering des pages web, et le suivi, les idées qui sont derrière sont hyper intéressantes. Évidemment, ça râle à mort puisque tout change dans ce Firefox Quantum. Le truc qui est effectivement est le plus problématique pour la communauté, c'est que tout le moteur de gestion des plugins, des extensions change.
Ouais, on en avait parlé déjà à l'époque sur Geekzone, ils avaient annoncé ça il y a très très longtemps.
C'est un projet de longue haleine, puisque forcément, t'as plein de mecs qui sont en train de pleurer sur leurs extensions en disant « Moi je veux pas, je veux mon truc de gestion de table. » Mais c'est fini mec. C'est fini à un moment, et voilà, soit ton dev il le refait, soit t'en trouves un autre. Et bon, évidemment, c'est pas une position que tu peux avoir concrètement quand tu t'appelles Monsieur Mozilla. Il faut bien mettre un peu d'eau dans son vin, donc ça a pris du temps, mais bon, là, c'est bon, ils vont couper le cordon, pas pas tout de suite, on sera sûr, mais bientôt quand même. Et cette version qui est donc, en fait, son vrai nom actuellement, c'est Firefox Developer Edition. C'est ce que vous avez récupéré sur le channel Beta ou Nightly. Et c'est donc le numéro de version, c'est le 57 pour commencer à bénéficier de tout ça, sachant que les Nightly sont déjà à la version 58, mais sont encore moins stables. Donc voilà, ça dépend de votre degré de prise de risque. Franchement, essayez-le, regardez ce que ça donne. Moi, il a récupéré toutes mes infos, tous les plugins qui n'étaient pas deprecated, qui n'étaient pas morts, et il les a réinstallés comme il a pu. En faisant quelques recherches, j'en ai retrouvé qui fonctionnaient déjà, qui avaient été adaptés. Le premier que j'ai été chercher, c'est évidemment celui de 1Password. Et ils sont déjà prêts, ça fonctionne très bien. Ils sont en train même de l'améliorer, parce qu'il y a des technos qu'ils vont pouvoir réutiliser avec Edge, par exemple. Donc, c'est un truc qui les intéresse à mort. Et le résultat est vraiment, vraiment intéressant. Je pense que à terme, cette version liftée à mort va pouvoir aller se refighter avec les Chrome, aller récupérer des gens qui étaient partis chez Vivaldi, Opera, etc.
Moi, le premier, ouais.
Voilà, et je tiens à dire que cette version continue de faire le meilleur rendering de fonte de tout le web. Si vous voulez voir la différence, pas compliqué, vous ouvrez Geekzone et vous le mettez dans Firefox, et puis après vous le regardez avec Chrome. Si vous avez un bon écran et des yeux à peu près corrects, vous allez voir que les typos sont bien plus nets, délimités, les gras sont plus intéressants. Enfin, le site devrait avoir le look qu'il a dans Firefox partout, ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Le deuxième meilleur navigateur pour le rendu de tout ça, c'est Safari. Et loin derrière, on a Chrome qui fait une espèce de tambouille infâme avec les polices de caractère, je ne sais pas pourquoi. Ça fait des années que ça dure. Je crois que Google en a rien à fiche pour l'instant. On verra bien si un jour ils s'aperçoivent qu'il y a quand même un souci à ce niveau-là. Maintenant, moi j'avoue que j'attends la fin de la bêta avec impatience, parce que du coup je risque de réinstaller ça comme navigateur principal sur mon PC sous Windows, et en secondaire sur macOS, parce que je suis sur Safari, en navigateur principal sur macOS. Et Vivaldi, pourquoi l'abandonner? Pourquoi le mettre un petit peu au placard alors que je l'adore? C'est parce que j'attends la synchro. J'ai plein de bécanes, j'ai plein d'environnements différents. Et refaire mon setup à chaque fois, ça me gave.
Ouais, j'ai le même problème. En fait, je suis revenu à Vivaldi après que Firefox soit redevenu un espèce de mastodonte ultra lent. Et c'est vrai que ça manque la synchronisation, et puis le rendu des pages effectivement est pas tip top. Donc ça a été vraiment deux trucs qui m'ont manqué. Et du coup, ça me donne envie de retourner voir du côté de Firefox.
Ça s'installe, c'est gratuit, c'est dispo maintenant. Donc allez tester. Et puis en plus, les updates ont l'air de s'enchaîner. On verra bien ce que ça donne.
On va parler d'un autre browser, Edge.
Et oui, Edge, donc le truc que personne n'utilise sur Windows 10, sauf si on est obligé, débarque en version iOS et Android. Et là, vous vous dites, mais pourquoi faire? Mais en fait, c'est plutôt malin, puisque donc on a un truc sur Mac, il faut que je vous explique, depuis des années, qui est hyper pratique, avec plein d'applications, qui s'appelle la fonction que c'est Continuity déjà sur Mac, je ne sais plus, j'ai un doute sur le nom exact de la feature. Mais en gros, vous êtes en train de naviguer avec votre Safari sur iOS, vous vous approchez de votre Mac, et dans votre barre de tâches, en bas, dans votre là où il y a toutes vos icônes, va popper un petit icône de Safari pour vous dire si tu veux continuer à lire et à regarder ta page web directement sur ton ordi, tu peux. Et puis d'une manière générale, on a accès à tous les tabs ouverts, etc. dans Safari, dans toutes les versions. Chrome fait la même chose entre Android et votre version mobile, y compris sur iPhone d'ailleurs. Du coup, Microsoft, ils étaient embêtés parce que ça, ils ont pas, puisqu'ils n'avaient pas de navigateur disponible sur les plateformes mobiles. Et du coup, il leur manque une pièce du puzzle pour avoir toutes ces fonctionnalités entre Windows et le monde mobile. Comme Windows Phone est mort, ils n'ont pas le choix, il faut bien qu'ils s'adaptent. Donc, ils sortent cette version de Edge qui permet de récupérer ses bookmarks, de récupérer une page et de la lire, continuer à la lire sur son desktop. Et inversement, mais il y a un petit problème, c'est que déjà, ça ne gère pas les tabs. Donc c'est un vieux manque tout pourri.
Ah oui,
c'est le truc le plus important. Alors apparemment ils sont en train de bosser dessus, mais quand tout le monde leur a dit mais y a pas les tabs, y a pas les tabs ouverts, à quoi il sert votre truc, et les mecs ont fait ah bon, les gens utilisent ça, donc Microsoft toujours au top. Et puis du coup, comme ils sont coincés avec leur moteur de rendu, puisque sur iOS tu peux pas utiliser autre chose que le WebKit de Safari, donc Edge utilise WebKit sur iOS comme Google Chrome. Ils n'ont pas le choix, les mecs, sur la plateforme. Mais ils ne sont pas fait chier non plus sur Android, où ils utilisent Blink, en fait. Donc, qui est le moteur de monsieur Google. Comme ça, ils ont réglé le problème. Ils ont juste refait l'interface. Le look and feel est très, très proche de la version PC. Mais d'un point de vue rendu de page, ils ont été au plus sympa.
Mais du coup, pas grand intérêt, en fait.
Uniquement un intérêt si on est un gros fan de Windows. Alors, je ne sais pas, il y en a peut-être.
Chut, faut pas le dire.
On va le faire en ASMR. Mais si vous utilisez Windows, ça peut être pratique. Enfin, genre, non, c'est pire que ça. Si vous utilisez Edge sous Windows.
Ouais.
Donc voilà.
Après, c'est limité.
Oui, mais c'est une possibilité de plus. Alors, je ne veux pas cracher dessus, vous savez. Voilà. Parce que finalement, pour l'instant, les possibilités pour faire ce genre de truc sur Windows, elles sont pas énormes.
Hein. Non, non.
Donc, si ça fonctionne et que ça fonctionne bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en attendant, ils ont un peu de boulot, quoi.
Bah écoute, j'essaierai quand même par curiosité, mais voilà, je crois que je vais rester au fond. Je suis toujours sur Firefox, d'ailleurs, sur browser, et ça marche plutôt pas mal.
Et voilà.
On va passer à la culture avec un truc qui pourrait être aussi dans le gaming, en fait, quelque part, c'est Adam. Donc, je rappelle, hein, Adam, c'est quoi? C'est il y avait eu un court-métrage qui s'appelait Adam Chapter One, qui avait été présenté donc à la GDC de 2016, qui était une démo technologique, en fait, du moteur Unity. Donc, il y a un des gros moteurs, c'est il est quoi? Il est en open, il est en free machin, Unity aussi?
Hein, il est en free truc, ouais.
Ouais, c'est
non,
ça.
Non, il est... Tu as un système d'abonnement qui est absolument pas cher. Enfin, pas d'abonnement, mais le prix est ridicule, en fait.
Il est accessible, on va dire.
Voilà.
À des petites bourses. Donc, ils avaient fait une démo technologique qui avait plutôt bien marché. Hein. C'était l'histoire d'un android amnésiaque. Je vais pas vous spoiler l'histoire, mais qui était plutôt bien réalisé, avec un scénar intrigant, assez bien écrit, et un gros cliffhanger à la fin. Donc, du coup, ils avaient remporté un Webby Award pour les récompenser de ce taf. Et ils ont annoncé cette semaine donc la sortie du chapitre 2, qui s'intitule de Mirror et qui a été réalisé, tenez-vous bien, donc par Neil Blomkamp, qui est le célèbre réalisateur sud-africain de District 9, qui avait créé une société, on en a parlé il y a quelques semaines sur Geekzone Out Studio, donc c'était une société de production qui avait pour intention donc de produire des courts-métrages et les diffuser ensuite sur les plateformes comme Steam et YouTube. Donc il s'est intégré à l'équipe de d'Unity donc pour créer ce chapitre 2, c'est lui qui a fait la réalisation, et donc il est maintenant visible un peu partout sur le net. On vous l'a linké dans la news sur Geekzone. Je vous remettrai le lien dans le papier qui va avec ce podcast. À savoir qu'aussi un chapitre 3 est prévu pour bientôt. On ne sait pas encore si c'est Neil Blomkamp qui va s'en occuper ou pas, mais ce sera probablement lui. Puis pour ceux que ça intéresse, on peut récupérer tous les assets du chapitre 1 sur le site. Je vous filerai les liens là aussi. Donc si vous avez Unity chez vous, vous pouvez faire mémuse avec tous les éléments du court-métrage et recréer votre propre version du court-métrage si ça vous amuse. Tu l'as vu aussi, tu as trouvé ça plutôt cool, toi?
Je trouve ça plus que cool, en fait. Et c'est hyper frustrant. Alors je sais qu'il bosse sur un épisode 3,
ouais.
Mais moi je voudrais qu'il bosse sur un film, quoi. Donner de l'argent à ces gens et faites-moi un vrai truc complet, parce que tu veux juste voir la suite. Je veux pas spoiler, mais en même temps ça dure 5 minutes, mais il y a un nouveau personnage dans cet épisode 2 qui défonce les effets graphiques. Alors après, c'est aussi la mise en avant d'Unity, c'est du temps réel, etc. Mais il faut imaginer ce qu'on pourrait faire avec du temps pas réel, justement.
Ouais, c'est ça, de la vraie CGI.
Parce que là, le niveau est déjà fou, hein, attention. Mais l'univers qui est en train de se créer autour de ce truc-là est juste hyper intéressant, et on sait rien. Il y a vraiment, voilà, ça fonctionne parce que justement on sait rien. Ça se trouve on serait hyper déçu c'est par des explications en carton, mais non, je trouve le truc hyper sexy. En fait, j'adore le design et l'univers qui se dégage de ces projets, donc j'attends de voir ce que ça va donner avec l'épisode 3, mais moi je suis hyper client.
Voilà, l'univers super intrigant, c'est ce qui avait d'ailleurs attiré Neil Blomkamp à l'inciter à rejoindre le projet, en fait. C'est vraiment, il avait accroché à l'univers avant la démo technologique, avant le fait que ce soit du rendu en temps réel, etc. On va rester en culture, mais en même temps en business un petit peu aussi. Je voulais en parler très vite parce que c'est une news qui a dû passer relativement inaperçue et pourtant elle est un peu importante. A priori un changement de méthode de distribution chez Netflix. Alors on sait que jusqu'ici, Netflix avait plutôt tendance à quand ils faisaient des partenariats pour la production de films, à s'assurer que le film sortait en même temps chez eux et dans les salles pour éviter donc de perdre des gens qui viendraient pas le voir sur Netflix. A priori, ça va changer puisque là ils sont sur le point de finaliser donc un deal avec le studio de production Ciné New Line pour la mise en chantier d'un nouveau film autour de Shaft. Alors jusque là, il y a rien de particulièrement percutant à part le fait que peut-être rebooter une fois de plus Shaft, c'était pas nécessaire. Je sais pas ce que t'en penses.
Je crois qu'à ce niveau-là, Hollywood a fait plus fort tout
c'est
le temps.
C'est ça.
Tu vois,
une surprise. Prendra toujours.
Allez-y les gars, continuez.
C'est en fait le fameux projet Son of Shaft dont on avait déjà entendu parler il y a quelques mois, donc ce projet de reboot effectivement du personnage de Shaft. Le deal va donc permettre à New Line de diffuser le film en salle pendant 2 semaines avant qui soit dispo sur Netflix. Donc ça, c'est la première fois que ça arrive pour Netflix. Du coup, c'est assez nouveau. C'est une société qui, comme je le disais, a toujours appliqué une politique, comme on appelle, de same day release. Donc ça sort le même jour sur Netflix et dans les salles. Amazon a fait le contraire. Ils ont, par exemple, sorti The Big Sick, qui est un excellent film que je recommande, en salle pendant quelques semaines selon la voie traditionnelle. Et puis, ils l'ont diffusé en streaming chez eux. Et c'est a priori une stratégie qui paye, qui rapporte plus de sous, forcément, puisqu'on fait des rentrées directes avec les gens qui vont acheter leur billet en salle, contrairement aux répercussions qui sont difficiles à calculer quand tu dois transformer ça en nombre d'abonnés que tu as pu éventuellement récupérer suite à ce projet-là, etc. Donc c'est plutôt intéressant de voir que Netflix se met au diapason des autres diffuseurs en fait de streaming. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si Netflix commence à produire des films, on risque de devoir attendre un tout petit peu avant de pouvoir les voir sur le service de streaming et de devoir sortir dans le froid pour aller les voir au cinéma. Et ça, c'est pas cool. Et on va passer du côté de la tech avec quelques news du côté d'Android.
Oui, parce que c'était la semaine un peu de Google cette fois. Hein. Mmh. C'était la semaine Apple il y a 15 jours ou 3 semaines, là, j'ai un vieux doute, mais sur toutes les annonces Apple, et ben c'était cette semaine que Google dévoilait toutes ses nouveautés hardware. Mais avant d'en parler, je voulais juste balancer quelques chiffres qui font un petit peu mal et qui mettent un peu en perspective toutes les nouveautés justement annoncées par Monsieur Google. C'est les parts de marché d'Android et des différentes versions. Et ça fait un peu pleurer, on va pas se mentir. Et pas seulement pour se moquer, mais juste parce que du coup, ça limite l'impact de toutes les nouveautés que Google balance sur Android. Le chiffre qui fait mal, c'est Android Oreo. Combien de téléphones disposent de la dernière version d'Android, donc, aujourd'hui? 0,2%.
Oh, mais c'est rien, quoi.
Alors, c'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est surtout hyper violent quand on met ça en parallèle avec iOS 11, qui est sorti il y a, quoi, 3 semaines, même pas? Qu'un jour, j'ai vraiment preuve. Voilà, une semaine de vacances, j'ai plus les dates, mec. Hein. Ne m'en voulez pas.
Putain, ça va vite le jet lag avec toi. Hein.
Ouais, mais le jet lag, c'est compliqué. Hein. Enfin, c'est surtout la semaine au soleil, mais ça tape un peu. Bref. Donc, eux, iOS 11, ils sont déjà à 28,5% sur les devices Apple.
Ouais.
Donc, ça vient de sortir. Ils vont taper les 30% avant que les autres soient à 1%. C'est ridicule. Enfin, là, je veux dire, c'est vraiment, vraiment ridicule. La conclusion des analystes, c'est de se dire que le seul moyen de s'en sortir pour Google, c'est de faire vraiment un Google Android, un OS propriétaire, donc en oubliant ses partenaires et en faisant un truc installé sur leur hardware à 100% et en le distribuant à grande échelle. Ça tombe bien, puisque donc annonce hardware Google cette semaine, et c'est un peu la direction que ça prend, mais pour l'instant c'est encore très gentil. Mais je vous rappelle qu'on avait parlé du rachat de la division smartphone d'HTC il y a pas longtemps, où Google récupère 2000 ingénieurs, il va falloir les occuper. Donc même si c'est pas cette année, et même dans la news que j'ai fait sur Geekzone, je dis le matos c'est pas le travail de Google, je tiens à dire que c'est pas le travail de Google cette année. Mais je pense qu'on va assister à un shift très bientôt. Bref, qu'est-ce qu'ils ont annoncé de beau? Alors plein de trucs. J'ai fait une news complète en version TLDR, c'est-à-dire Too Long Didn't Read, version Reader's Digest, sur le site. Vous aurez un petit patch de tout ce qui est sorti. Moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est évidemment les Pixel Phone. Alors les Pixel 2, c'est les nouveaux smartphones de la marque. Il y a Pixel 2 et Pixel 2 XL qui sont a priori toujours aussi bons. Le 1 était vraiment vraiment bien. À un détail près, et là on va rire, il avait une prise jack pour mettre son casque qui était merdique. Et en fait, tout le monde disait c'est une cata à utiliser du Bluetooth parce qu'en fait, la prise jack, ils l'ont mis, mais le son est dégueulasse. Et ça tombe bien, il n'y est plus dans le nouveau. Donc, alors ce qui est génial, c'est que Google avait fait plein de pubs en se moquant d'Apple en disant « Regardez, on a une prise jack !» Bon, en oubliant qu'elle était pourrie, tu vois. Mais du coup, cette année, ça va être un peu compliqué puisqu'ils l'ont plus, c'est fini, c'est terminé. Et parallèlement à ça, ils annoncent les Pixel Buds qui sont les équivalents des AirPods chez Apple, qui sont évidemment propriétaires aussi, dans le sens où ce sont des écouteurs Bluetooth qui fonctionnent sur tous les téléphones, mais toutes les fonctionnalités avancées, en fait, t'en perds en fonction de ce que tu utilises. Le Google Assistant ne marche que sur les téléphones Android à partir d'Android N, c'est-à-dire un pourcentage ridicule du nombre de téléphones en circulation. Donc déjà, ça s'est fait. Et la grosse démonstration, le truc qui a un peu scotché tout le monde, même si à mon avis, dans la vraie vie, ça déconne à mort, mais c'est la traduction en temps réel de 40 langages. En gros, comment ça marche? Vous parlez dans votre écouteur en appuyant sur l'oreillette droite et vous avez directement le truc qui va être traduit par votre téléphone dans la langue de votre interlocuteur. Donc, ça marche avec 40 langues. La démo sur scène, c'était entre l'anglais et le suédois, par exemple. Mm-hmm. Le concept, c'est un peu Star Trek, tu vois. T'es en mode genre yes! Et le mec en face te parle dans le téléphone et toi, tu vas entendre la version traduite dans tes écouteurs. Donc, ça tue, mais ça ne marche que sur Pixel.
Ouais.
Donc, si tu n'as pas ce téléphone-là, t'as beau avoir les écouteurs, ça ne fonctionnera pas, le truc va pas te le proposer. Donc, il y a pas mal de papiers qui sortent en ce moment en disant que le Bluetooth étant ce qu'il est, les mecs sont obligés de... Enfin, quand je dis ça, donc pour les gens qui ne comprennent pas les sous-entendus, c'est de la merde. Donc, ils sont obligés de rajouter des couches et ces couches sont forcément propriétaires. Mmh. Donc, maintenant, si vous avez des casques AKG, toutes ces grandes marques-là vont être en panique parce qu'ils n'ont pas accès à toutes ces nouveautés et ils peuvent pas les intégrer dans leurs propres produits. Ça va être compliqué.
Ah.
Donc, est-ce qu'on se dirige vers un marché ultra fermé de ce côté-là aussi? Je ne sais pas, mais il y a des gens qui commencent à se poser la question en disant si les mecs ont pas accès à ces trucs-là très vite, comment tu vas choisir tes écouteurs? Tu vas prendre les trucs de la marque de ton téléphone, par exemple.
Ouais.
Et pas le truc à le meilleur son. Ça va commencer à couiner. L'autre grosse blague, et je suis obligé de la faire, les mecs, je suis désolé, c'est que l'adaptateur USB-C vers qui te donne une prise jack qui est dans la boîte, comme pour les iPhones qui n'ont pas de prise jack, quand tu le remplaces chez Monsieur Google, ça coûte 20 balles. Enfin, $20. Donc, Apple, ça coûte 9.
Ah oui.
Ah oui.
Petite différence.
Hein. Putain, pour la première fois, je crois que Google a vu le dieu marge et ils se sont fait plaisir. Et la dernière info qui est un peu catastrophique, c'est que tous les produits annoncés par notre ami Google sont quasiment pas dispo. Enfin, il n'y en a aucun qui est dispo en France, à part le Google Home Mini. Donc déjà ça c'est un vrai problème et le deuxième souci c'est que même là où dans les pays où ils sont dispo, par exemple aux États-Unis au hasard, on est déjà sur un système de liste d'attente, il y a déjà plus rien de dispo sans date réelle de livraison. Alors il y a quelques trucs qui est marqué entre 4 à 8 semaines, ok, je vais prendre mon mal en patience. Mais ils ont un vrai, vrai problème de production derrière ça. C'est pas juste un problème de conception. Une fois que t'as fait des produits, faut pouvoir les sortir des usines. Et Google, je sais pas s'ils sous-estiment à chaque fois, s'ils sont frileux, s'ils ont un vrai problème d'approvisionnement à cause d'un composant qu'ils utilisent à chaque fois. Je pourrais pas vous dire, mais le fait est que c'était déjà le problème du Pixel 1 l'année dernière, qui était introuvable pendant pratiquement 6 mois. Et j'ai l'impression qu'on se dirige vers encore ce même style de problématique cette fois-ci. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Pour le reste des produits, je vous laisse aller voir ma news parce qu'on est déjà largement au-delà de notre demi-heure allouée pour le podcast. Mais sachez que le Pixel 2 XL particulièrement, c'est vraiment un excellent téléphone. Certainement top 2, voire le meilleur téléphone Android. Si vous cherchez une expérience Android pure, c'est-à-dire sans surcouche, vous n'avez pas le choix de toute façon. Donc, bon, il est vraiment très bon. Ça aurait été génial de pouvoir en disposer en France. Moi, j'aurais adoré faire des tests dessus, mais c'est pas le cas. Pour la petite histoire, Google s'est contredit en interne hier parce qu'il y a la filiale française qui a dit si, ça va arriver chez nous. Et puis après, ils ont fait non, on est désolé, pardon, il y a cafouillage. Et on ne sait toujours pas pourquoi, en fait. Quelle est la raison, sachant qu'il y a des produits, par exemple, qui vont être disponibles en Espagne, en Italie et pas en France. Donc, bienvenue dans le tiers-monde.
Le mystère est entier, donc peut-être qu'ils t'entendront et qu'ils mettront à disposition des pixels dans l'hexagone.
Un jour.
Allez, on va passer à ton coup de gueule.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Alors, cette semaine, c'est DxOMark qui prend cher.
Ah,
c'est qui DxOMark? Je connaissais pas du tout.
Alors, c'est parce que tu lis pas les reviews de téléphones, d'appareils photo, etc. DxOMark, c'est un peu la mec pour savoir quelle note a ton téléphone, en fait, et ton appareil photo, comment il se positionne par rapport à la concurrence.
D'accord.
Et pourquoi c'est de la merde? Eh ben, parce qu'en fait, ils essayent de faire passer un process qui est très, très, très subjectif. Mais vraiment subjectif, comme étant un truc aussi fiable qu'un benchmark de processeur, tu vois.
Mmh.
En attribuant des notes qui veulent dire, alors attention, il y a des notes pour telle ou telle chose qui concerne ta prise de photo, si tu veux.
Mmh.
Et c'est expliqué sur leur site, il y a tout un espèce de mise en place hyper technique pour te dire, attendez, nous on est des professionnels de la profession, on sait ce qu'on fait. Et en fait, ça ressemble à rien. Et en fait, alors, il y a des gens qui vont dire, ah, mais tu dis ça parce que t'aimes pas Google et ils viennent de gagner la meilleure note avec le Pixel 2. Les gars, détendez-vous, j'avais prévu de dire ça en fait la semaine dernière, mais j'avais pas prévu que j'étais au soleil. Et la semaine dernière, le numéro 1, c'était qui ? C'était l'iPhone 8. Donc, même si l'iPhone 10 reprend la couronne, je ne changerai pas d'avis. DxO, le truc est cité partout, dans tous les tests. Tu peux pas y échapper dès que tu lis un truc technique. Si tu veux, c'est l'argument ultime du journaliste vite fait qui a pas le temps de faire ses propres tests pour dire « Ah là là, cet appareil photo vient d'avoir 98, c'est le meilleur appareil photo du marché. » mais non, les mecs, non, parce que ça va plus loin et c'est pas aussi simple que ça. Il y a un petit texte que j'adore de notre ami John Gruber de Daring Fireball, qui est un vieux blog tech, analyste, etc., qui est le mec qui a fait le Markdown, je vais pas vous faire son pédigré à chaque fois que je parle de lui, qui démonte bien le truc et qui est vraiment très intéressant. Après, derrière, c'est vraiment une question de bon sens. On peut pas noter des choses qui ne sont pas notables, en fait. Il y a des éléments, évidemment, qui sont des éléments techniques, combien de lumière va prendre l'objectif, etc. Il y a des choses qu'on peut noter, mais il y a des choses qu'on ne peut pas noter, et eux le font pour justement se donner cette aura de truc un peu d'étalon, si tu veux, et bah, ça ressemble à rien. Donc je vous dirais juste de regarder plusieurs reviews sur le net avec des gens qui ont des yeux, qui font des comparatifs photos, qui vous mettent les photos sur le site web. Il y a des sites qui font ça très bien maintenant, avec des petits sliders, tu sais, où tu peux avoir l'image qui va être remplacée par plusieurs appareils photos différents. Et puis, faites votre choix là-dessus. Faites pas votre choix sur un DxO. Évidemment qu'un truc qui a une note toute pourrie va être fatalement un petit peu moins bien qu'un truc qui a 20 ou 30 points de plus. Mais quand ça se joue à 2 points, bah, croyez-moi, ça veut rien dire. Et même si ça se joue à 5 points, ça veut pas dire grand-chose non plus. Donc, ne prenez pas, par exemple, sur les téléphones Android, il y a des trucs qui sont un peu bas dans le score, alors que quand on creuse, c'est quasiment les mêmes matos. Et les mecs qui les ont, les tests qui ont été faits, sont vraiment bons. Donc, voilà. C'est à prendre avec un énorme grain de sel, et ne vous faites pas avoir par ce faux truc technique qui n'en est pas.
Et c'est la fin de ce 20e épisode de Torréfaction. On y sera arrivé. On a un peu de mal cette semaine, on va pas se le cacher.
Bah moi je suis très fatigué, je suis malade, je peux vous le dire maintenant. J'en chie là.
On va aller se coucher et on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Torréfaction. Bon week-end, bon repos, CAF.
Ouais, merci et bonne soirée.
Ciao.
Ciao.
DxO Marc Caca donc.
Oh. On va conclure comme ça vraiment parce que.
Non, je sais pas.
Non.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Des actus, des dossiers, des tutos, des podcasts, Geekzone, c'est le site de la culture geek sous toutes ses formes. Et aussi une communauté en or. Retrouvez-nous sur geekzone.fr et soutenez-nous via Patreon. Geekzone.fr, par des geeks, pour des geeks.